toutes et à tous, curieuses et curieux, polis, poreux, poètes et pot-parleurs. Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'onde très curieuse de ce lundi 13 avril. Aujourd'hui, grâce à Juliette Pégon, responsable culturelle du centre hospitalier Sainte-Marie à Privas, que les compagnons de l'École Réhab, ce collectif ouvert à tous du service de réhabilitation psychosociale de l'hôpital, ont invité dans ce studio, eh bien aujourd'hui, grâce à elle et grâce à vous tous, les rédacteurs autour de cette table, on va brouiller les frontières, renouer avec la porosité, la poreuse. Mot valise sans doute pour peau heureuse, heureuse de révéler ce qu'il y a de plus profond en nous, selon le mot célèbre de Paul Valéry. Ce qui est intérieur devient extérieur, le dedans, le dehors. La frontière disparaît, les catégories, les sécatégories, ces découpages de la réalité qui séparent, s'estompent. Les paupières, pierres qui scellent et qui obstruent, les paupières s'ouvrent et révèlent les recoins cachés de notre commune humanité, les poplités du « je, nous ». Oui, aujourd'hui, on va renouer avec la porosité et on ne sait jamais ce qui peut arriver quand on brouille, enfin quand on prend soin plutôt de brouiller les frontières, c'est ce qu'on appelle le poker. Et l'art dans tout ça, eh bien l'art, comme la peau brouille les frontières, intérieur, extérieur, c'est l'expo qui s'impose et la poésie comme l'apostrophe de notre humanité. Eh bien, on parle de tout ça avec Juliette Pégon. Bonjour Juliette.
Bonjour.
Et avec les amis de l'écho. Alors aujourd'hui, c'est Karine. Bonjour Karine.
Bonjour.
Agnès, bonjour.
Bonjour Sophie.
Solène.
Bonjour.
Qu'on entend pour la première fois ici. Salut à toi Solène. Et bonjour Jean.
Bonjour Sophie.
Merci à tous. Alors vous êtes venus donc avec deux cadeaux aujourd'hui. Le premier, ben, je l'ai dit, c'est Juliette qui arrive comme un cadeau. Et puis le deuxième, c'est le dernier exemplaire, la dernière édition de l'École Réhab, donc votre journal, le numéro 32 qui s'appelle Radiophonie. Identité et création, qui est magnifique. Vous venez de m'en donner un exemplaire, enfin plusieurs exemplaires, qui sont ici à la fréquence 7, d'ailleurs, si ça vous intéresse. Qui veut en dire un mot? Enfin, moi, j'ai trouvé ça exceptionnel. Karine? Non, Karine. Qui? Jean, tu veux parler de ce nouveau...
C'est le résultat créatif des interactions du journal. Interaction qui convoque en fait la question humaine dans son ensemble et voilà, c'est un reflet de ça.
C'est un reflet, ouais. Parce que, donc pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas hein, l'écho de la Réhab, vous vous retrouvez deux fois par semaine. C'est ouvert, je le disais, hein, donc à certaines personnes du coup en hôpital de jour, mais également à des artistes, à tout à chacun, en fait, ouvert pour celles et ceux qui veulent parler, se rencontrer, échanger, et puis écrire éventuellement ou dessiner autour de ça. Alors Juliette, ma première question toute simple, c'est comment tu as rencontré la psychiatrie et comment tu as rencontré l'écho de la Réhab ?
Alors, bah, c'est une grande histoire d'amour. Moi, je suis arrivée en 2015 à l'hôpital Sainte-Marie à Privas. J'avais travaillé 2 ans au Vinatier avant, dans le cadre de mes études, et puis on m'a appelée pour venir travailler ici. Donc j'ai passé un entretien d'embauche très classique, mais un petit peu inversé, parce que moi j'habitais à Lyon, j'avais pas du tout pour objectif de déménager. Et lors de cet entretien, qui était mené par le médecin-chef de la réhabilitation à l'époque et la cadre de santé, on m'a donné le journal. Et en fait, très clairement, c'est ce qui m'a fait venir. Parce que déjà, je trouve que c'est un objet très très rare aujourd'hui dans nos hôpitaux de... Voilà, que c'est une petite bombe de poésie. J'ai beaucoup aimé ton texte autour de peau et poésie. Moi, c'est vraiment ce qui m'a touchée. Et j'ai trouvé ça incroyable que ça existe, que ce soit diffusé, qu'il y ait des textes aussi profonds. Il y avait quelque chose avec l'existentialisme à l'époque, mais que je trouve encore aujourd'hui dans les textes et les propositions. Et c'est notamment l'écriture de Christophe qui m'a énormément plu et touchée. D'ailleurs, je lui dis toujours en plaisantant que c'est grâce ou à cause de lui que j'ai déménagé avec ma famille pour venir en Ardèche. Mais et c'est très vrai. Je pense que ça m'a touchée au cœur, en fait. Et du coup, bah, j'ai quitté mon emploi à Lyon et on est venu s'installer en 2015 en Ardèche. Et très clairement, ça a été une rencontre ensuite avec l'équipe du journal, avec Agnès et Guillaume. Je crois Guillaume qui était arrivé depuis pas très longtemps. Et puis les personnes qui animaient ce journal.
Et je n'ai pas dit, mais il y a deux personnes qui ne sont pas autour du micro, c'est pour ça que tu t'adresses un petit peu. Guillaume est là aussi, et Antoine aussi est là avec nous aujourd'hui. Tu as parlé de Christophe, peut-être, est-ce qu'on peut lire tout de suite un petit texte de Christophe ? Je pense que Agnès, tu avais repéré dans la dernière, dans l'édition du dernier écho de la Réhab, un texte de Christophe.
Alors j'enfile mes lunettes. Pour mieux pouvoir le lire. Voilà, donc on a choisi celui-ci, donc que vous trouverez dans le dernier numéro. Donc je commence. Souviens-toi en général, le supplice journalier, seconde spatiale, émouvant, refaire surface, positif poésie, commun sa structure, solliciter sa façon d'être exclusif, son amour consécutif, solennel, attribuant d'ouvrir au passage sa culture effrontée, sa renaissance tribu, souhait, recherche rubrique, sa partition équipage, les œuvres présence, sa façon d'aimer. Christophe.
Ouais. Alors, comme souvent après une lecture, mais ça nécessite... Ouais. Voilà. Ouh. On digère un peu. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça ?
Moi, ça me touche énormément. Et puis, je trouve que Christophe, il y a quelque chose de très surréaliste. Mais en fait, il y a aussi une musique, il y a un rythme. Et puis, pour moi, il a quelque chose de très médiumique, Christophe, c'est-à-dire qu'il catalyse, en fait, les inconscients de chacun. Moi, je le faisais venir des fois sur mes réunions de culture et santé. C'était très intéressant de voir ce qu'il en écrivait. Et il y avait quelque chose de l'ordre du sensible, de l'invisible, je trouve, dans ces textes qui traversent comme ça, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas. Donc, il y a quelque chose avec le mental qui va... On est obligé de lâcher. Moi, quand j'écoute Christophe, ça me fait lâcher le mental. En fait. Et du coup, on est dans une poésie très organique. Voilà. Et là, c'est vrai qu'à chaque fois, c'est ce que tu dis, on a besoin de digérer, d'infuser quelque chose avec le corps, je trouve, dans la poésie de Christophe, qui est incroyable. Quoi. Et qui continue d'ailleurs d'écrire hein, tous les jours. Il nous écrit des textes d'une beauté infinie.
Culture et santé, tu as prononcé le mot. Qu'est-ce que tu y fais ? Qu'on se représente un petit peu. Qu'est-ce que tu y fais concrètement ? Et puis, quel est l'état d'esprit dans lequel tu le fais ?
Alors, culture et santé, donc moi, on m'a vraiment missionné sur la question culturelle à l'hôpital, mais en fait, j'ai pris le relais d'autres animatrices culturelles qui avaient déjà enclenché les choses, et on a développé avec l'idée vraiment d'ouvrir l'hôpital. Je crois que le cœur du sujet, c'est d'ouvrir avec la voix des patients et des artistes, donc d'être sur une rencontre. C'est vraiment, on dit toujours que ce sont des prétextes à la rencontre, mais vraiment, c'est-à-dire que la question est en fait est de comment une personne hospitalisée, et puis aussi les soignants, les équipes même administratives, et puis l'entrée principale, la pharmacienne, enfin voilà, tout ce qui fait qu'on habite ce lieu aussi, nous, en tant que salariés à l'hôpital. Et puis des artistes peuvent se rencontrer, à quel endroit ils se rencontrent et à quel endroit ils recréent du lien, ils refont lien. Et souvent, on se rend compte qu'en se décalant du soin, nous, notre proposition, elle n'est pas, en tout cas, elle n'est pas annoncée comme thérapeutique, c'est vraiment l'idée de retrousser les manches et de plonger ensemble dans la bidouille artistique. Donc, qu'est-ce que c'est un processus de création ? Qu'est-ce qu'on a envie de raconter ? Qu'est-ce qu'on n'a pas envie de raconter ? Voilà, qu'est-ce qu'on a envie de partager de sa maladie ? Mais pas que. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on va s'adresser à la personne, en fait, en tant que personne et pas en tant que maladie ou symptôme ou psychopathologie, etc. Et du coup, on va proposer, moi, vraiment, on fait une programmation, en fait, comme dans un lieu dit de milieu ordinaire, une programmation culturelle, mais qui part d'un milieu contraint. Et puis la grosse spécificité quand même, c'est qu'on compose cette programmation avec les personnes, avec les patients. Donc en fait, il y a toujours une magie aussi un peu improvisée, c'est-à-dire qu'on va préparer un programme, faire des demandes de subventions. Donc ça, c'est important de le dire aussi, parce que c'est vraiment décalé de la politique hospitalière à proprement parler. On est soutenu par notre direction, mais on a une très grande liberté en termes de propositions et d'invitations artistiques. Et on va inviter des artistes, avec nos partenaires culturels, à plonger dans la bidouille hospitalière. Donc ça va être des résidences, ça va être des ateliers, il y a tous les formats possibles en fait. En intra-hospitalier, en extra-hospitalier, et avec l'idée de partager à un moment patients et artistes et soignants avec du grand public ce qui a été créé. Quelque objet que ce soit, en fait, si c'est fini, pas fini, etc.
Et vous, autour de la table, donc à l'École Réhab, comment vous recevez ça ? Est-ce que... je précise ma question. Et ce que tu disais, voilà, on fait avec, du coup, avec les patients et pas, c'est pas catapulté après. Est-ce que vous, je sais pas, Jean, Solène, Karine ou même Agnès, est-ce que vous avez été justement sollicité ou est-ce que vous êtes, est-ce que vous avez commencé justement ce processus d'invitation créative?
Oui, on a été impliqués dans plusieurs projets. Enfin, moi, en ce qui me concerne, j'ai fait... Karine, pardon, c'est moi. je ne sais plus, on avait fait Cosmophonie avec Cyril Hernandez, qui est d'ailleurs en ce moment avec le théâtre de Privas. Pardon. Donc lui, c'était surtout basé sur le son. Donc, il prenait du... Soit on lisait des choses, moi, je jouais d'un instrument. Enfin, c'était vraiment... Et après, il faisait une composition... Et sinon, on a fait avec une...
Avec Dania Amoulda,
Dania, voilà.
Les ateliers du Bacro.
Oui, là, c'était plutôt de la danse... Enfin, c'était plutôt du corporel. Qu'est-ce qu'on avait encore? Pardon.
Tu vas aux ateliers de peinture, les jeux.
Oui, les ateliers de peinture. Enfin, il y a vraiment... ouais, et puis...
L'atelier couture aussi. Il y a l'atelier couture.
Solène.
Ouais. Là, pour la... Pour l'inauguration en octobre, c'était
le sixième. Voilà. Semaine d'info.
C'est ça. On a créé des petits carrés avec la laine. Mmh. C'est tricoté avec la laine. Le but était d'assembler qu'on accoste les gens lors d'un marché et puis qui mettent une laine accrochée dans un stand pour rossir les liens, réunir les liens entre l'handicap et les personnes qui sont pas handicapées. Et justement, ça resserre le lien. On n'est pas que malade, on n'est pas qu'une étiquette avec cette maladie-là, mais on pourra faire quelque chose pour pouvoir faire découvrir aux gens qui n'ont pas l'habitude de voir des gens malades, ne pas les stigmatiser et apprendre à parler avec comme un petit truc en plus, en fait. C'est comme, voilà, le fille un petit truc en plus. Mmh. Je trouve que ça remet tout à sa place, quoi. Et on s'unit et on fait qu'un groupe, en fait. On est des êtres humains, comme tout le monde. Et c'est un rassemblement pour dire que quelque part, eh ben, on existe et que on peut communiquer normalement.
C'est ce qu'on disait, voilà, c'est exactement brouiller les frontières et qu'il n'y ait plus de catégories éventuellement, le temps d'en, enfin, au moins un moment. Pour toi, Jean?
Pour moi, je pense que ça repose déjà sur un droit, en fait, un droit à la culture, et sur la base duquel Juliette développe toute une programmation, et que le fait qu'il y ait une offre culturelle dans un milieu clos, comme le milieu hospitalier, c'est effectivement une sorte d'ouverture sur le monde. C'est aussi la participation à un acte de création. C'est aussi la possibilité de, une fois de plus, convoquer une certaine humanité autour de ces créations, où on voit que la frontière entre le pathologique et le non-pathologique, ben, elle est un peu floue, en réalité. Et quelque part, par l'émotion... Alors on dira que ce n'est pas à visée thérapeutique, mais il n'empêche que l'enthousiasme qui peut ressortir de ces événements-là, culturels, qui sont aussi littéraires, théâtrales, musicaux, en fait, cet enthousiasme a peut-être quelque chose de thérapeutique.
Oui. Ouais. Juliette.
Oui, bah c'est ce qu'on se dit souvent, c'est parce que l'objectif n'est pas thérapeutique que les effets le sont. Parce qu'on décale le propos, en fait. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et tu parlais de porosité. Et il y a quelques années, enfin pendant 3 ans, notre programmation était sur la thématique du moi peau, du bouquin de Didier Anvieux, psychanalyste, qui travaille vraiment sur la question du seuil. Donc c'était vraiment très touchant aussi ton poème par rapport à ça, parce que c'est vraiment toutes ces questions-là aussi, vraiment de porosité, de frontières, de seuil. Moi, je parle aussi de seuil, mais à plein d'endroits et aussi au niveau artistique, en fait. Comment on peut mélanger nos formats artistiques, qu'est-ce qui qui fait art, qu'est-ce qui fait création. Moi, je défends aussi beaucoup l'exigence autour des arts participatifs. On sait que maintenant, il y a la Cité des Arts Inclusifs à Lyon qui est ouverte depuis un an. Nous, depuis des années, on fait venir des artistes qui travaillent sur cette question de la participation amateur et en quoi aussi elle est revendiquée dans nos propositions à nous à l'hôpital. Enfin, voilà.
Mmh. Oui, non, je te pointe en disant, oui, ça c'est intéressant, est-ce que tu peux, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, ça implique quoi? Qu'est-ce que c'est, ces arts participatifs
En fait, il y a beaucoup d'artistes, soit qui travaillent seuls, soit qui travaillent avec ce qu'on appelle des pratiques amateurs, en fait, sur de la médiation culturelle. Ça s'est beaucoup développé, hein, ça fait partie de l'idée de la démocratisation culturelle, et comme ils le disaient les gens, c'est un droit, l'accès à la culture, c'est la déclaration de Fribourg, c'est vrai, sur laquelle on s'appuie beaucoup pour aussi légitimer ce qu'on fait dans les hôpitaux. Parce que moi, quand j'arrive, on me dit « Oui, c'est super, Juliette, mais comment te dire ? Nous, on travaille la contention des émotions, c'est pas le moment, les patients sont pas prêts, l'institution n'est pas prête, etc. » Donc du coup, au contraire, on va légitimer ce qu'on fait en disant « Si, si, c'est un droit comme l'accès à la nourriture, aux soins, etc. » Et heureusement, on a un texte, des fois je le sors, hein, ça m'arrive, pour le défendre en intra-hospitalier, par exemple, notamment. Et après, l'autre bataille du côté culturel, parce qu'on a on est un peu des métiers de guerriers comme ça, et heureusement que nous sommes un groupe et un collectif pour porter ces enjeux-là, en fait, mais c'est de revendiquer aussi que la création artistique et l'objet artistique est beau, ou en tout cas raconte quelque chose, qu'il y a un récit, qu'il y a un récit qui est important, et que c'est pas qu'une pratique participative, voilà. Et donc, pour ça, on a créé cette biennale aussi, tous les deux ans, avec l'idée de valoriser aussi tous ces objets co-créés, artistes et amateurs, donc amateurs hospitalisés ou pas, parce que d'ailleurs on mélange aussi les publics, on a du tout venant, on a des enfants, on travaille aussi avec la musicienne, etc. Donc vraiment pour valoriser plutôt le récit de la personne, en fait, comment on va parler de soi à l'autre, comment l'art nous permet aussi d'être lié à nous-mêmes et puis à notre environnement, et que ça a autant de valeur finalement qu'une exigence performative, esthétique, mais c'est des vraies questions qui sont traversées dans le milieu culturel aussi, et que nous on aborde.
Tu as dit, quelquefois c'est difficile quand on arrive avec justement un objet artistique et qu'on vous répond, là on est plutôt dans la contention des émotions. Alors là, d'ailleurs, c'est ce que tu as dit, Jean, c'est justement d'une certaine manière pour parler directement aux émotions et pour libérer peut-être quelque chose. Comment c'est reçu, comment vous vous en sortez justement pour libérer les émotions?
Jean. En fait, je pense sincèrement que ces actions-là, elles participent aussi à ce que j'appelle, moi, les aptitudes à vivre, en fait. C'est-à-dire quelque chose qui est, bien sûr, inclus éventuellement dans une pathologie ou pas, mais non, qui fait que les gens sont en vie et que l'acte créatif sollicite, finalement, ces aptitudes à vivre. Et que ça aussi, ça va dans un sens, en tout cas, s'il n'est thérapeutique, mais au moins... probablement positif, parce que ça peut s'exprimer de façon différente sur le papier, par un chant, par une peinture. Donc chacun, finalement, trouve un média avec lequel il interagit et avec lequel soit il est ému, soit il participe et il crée. Mais dans tous les cas, c'est cette aptitude à vivre qui est sollicitée.
Et pour toi, par exemple, ça passe par... ça s'exprime comment ?
Alors, moi, ce serait plutôt par la musique, en fait. Mais moi, la façon dont on est sollicité par les œuvres d'art, c'est à la fois émotionnel et puis c'est aussi intellectuel. Enfin, il y a un propos, justement, qui est donc... on peut être intéressé par ou frappé par le propos qui est traité, la solitude, l'exil, voilà. Et puis, on peut être aussi ému par ce qui nous est proposé. Je pense que c'est un peu des deux.
Ouais. C'est peut-être le moment, parce que tu as parlé de musique. On continuera ce petit tour de table pour savoir, vous, Karine, Solène, ce qui vous touche, comment vous recevez l'art, qu'est-ce qui se passe en vous, justement, dans ces différentes propositions artistiques. Mais tu as parlé de musique, et toi, Juliette, tu es musicienne aussi.
Oui, moi je fais de l'accordéon depuis que je suis petite. Et c'est très très libérateur pour moi, hein, parce que j'ai été malade enfant, en fait. C'est vraiment, ça m'a guéri moi-même. Donc je pense que c'est quelque chose qui est très ancré, c'est-à-dire qu'à un moment, du coup on est sur la musique, hein, mais il y a aussi la peinture et plein d'autres supports. Mais oui, c'est vraiment très très important pour moi de pouvoir partager ça. c'est-à-dire le pouvoir de sublimer, de, enfin voilà, tout ce qu'on est en train de parler, et surtout cette question aussi du désir. On parlait de la contention des émotions, qui est quand même très canalisée par les médicaments en psychiatrie, et c'est vrai que nous souvent on est sur la question de aller ramener ce désir de vie, de d'enthousiasme aussi. Tu parlais, donc il y a aussi une proposition d'enthousiasme contagieux, c'est-à-dire qu'on va aller chercher du côté de la joie, du côté de la ressource, etc., et de la considération. Mais d'ailleurs, dans le mot considération, il y a le mot désir. Donc pour moi, que ce soit la musique ou n'importe quel autre acte artistique, en fait, c'est vraiment donner attention à ce qu'on est, soi et à l'autre. Par la musique, mais...
Par la musique. Eh bien, on convoque tout de suite Piazzolla. On écoute là tout de suite Liber Tango de Piazzolla, ici interprété par Richard Galliano et Michel Portal. C'est une version de 1997 issue de l'album Blow Up. Et Juliette, tu nous disais justement ce morceau.
Oui, c'est un morceau qui est le tango en général et l'accordéon, mais en Amérique du Sud, c'était vraiment l'instrument de la liberté. C'était même joué un petit peu dans les caves de façon plus ou moins clandestine. Et c'est vrai que moi, il y a quelque chose, je trouve, avec Culture et Santé, on est toujours dans les interstices de l'institution, de ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Je pense qu'Agnès en parlerait très bien aussi sur les débuts du journal. C'est-à-dire qu'on est, on navigue aussi avec les possibles et surtout avec, au bout de la main levée, cette envie de liberté pour tout le monde, en fait.
Mmh. Est-ce que, Karine, par exemple, est-ce que ça te parle? Alors, toi, par exemple, est-ce que la musique, là, ce qu'on vient d'entendre, qu'est-ce que ça provoque en toi? Qu'est-ce que ça évoque?
Alors, moi, je fais du chant, mais en dehors de la psychiatrie. Et moi, c'est vrai que ça me libère énormément, en fait. Quand je chante, ben, déjà, je suis à l'instant présent parce que, ben, il faut que je me concentre à ce que je suis en train de faire. Et puis, je sais pas.
C'est corporel.
C'est corporel. Enfin, je sais pas. Moi, je ressens une très grande liberté. Et là, ce qu'on vient d'entendre, bah oui, bah le rythme, tout ça, on a envie de bouger, en fait. Hein, et c'est libérateur, c'est vrai, voilà.
Mmh. Solène, pour toi?
Moi, ça rappelle mon grand-père, parce qu'il faisait la trompette. Il était il avait un groupe de. Je crois, non, mais. Ça me rappelle ma grand-mère en train d'écouter à la radio ce genre de musique. Mais j'ai pas l'habitude d'en écouter et j'aime beaucoup.
Mmh. Et est-ce que tu pratiques justement, quel est ton rapport à l'art ou...
Ben, toute jeune, je faisais beaucoup de danse, donc j'adorais danser. J'étais modern jazz et tout ça. Et puis avec le temps, les écritures, écrire, j'aime beaucoup aussi. Et puis peindre aussi, j'aime bien aussi. Mmh.
Tu écris aussi pour l'Écho de la Réhab?
Oui. Ouais, oui.
Il y a quelques textes. Mm. Et toi, Agnès, qu'est-ce que ça te fait d'entendre justement Piazzolla et qu'est-ce que ça provoque en toi?
Oui, moi, c'est un morceau que j'adore. Je l'ai entendu aussi dans une version avec un xylophone. Et donc, il se répondait avec l'accordéon, et c'était carrément incroyable. Je ne pensais pas que ça pouvait s'accorder comme ça. Enfin, j'avais vraiment découvert, là. Et c'est vrai, quand on fait des découvertes, que ce soit comme ça, ou dans la musique, ou dans la rencontre avec une œuvre plastique, quand il y a cette rencontre, il y a cette liberté, il y a quelque chose qui s'ouvre en soi. Ça ouvre sur le monde. Enfin, c'est vrai que c'est carrément de la lumière, quoi, qui rentre. Enfin,
c'est ça. C'est vraiment ce que tu disais. Et j'imagine ce que tu cherches à faire. C'est le monde qui rentre en nous via l'art. Alors, par la musique. J'étais un petit peu étonnée, Jean. Toi, tu dis effectivement, c'est la musique qui me fait. On va dire ta porte d'entrée artistique, c'est plutôt la musique. Et tu parles certes d'affect, de... Tu n'as pas prononcé le mot corps, mais enfin quelque chose de sensoriel, mais d'intellectuel. Pour moi, la musique, c'est peut-être ce qu'il y a de... Ce qui chante le plus, parce que c'est pas... Il n'y a rien de figuratif, on n'est pas... c'est peut-être ce qui court-circuite le plus le côté intellectuel, mais pas pour toi.
Non, mais je pense qu'une expérience artistique, c'est une immersion de toute façon, à un moment donné. Et qu'on soit auditeur, qu'on soit interprète, qu'on soit compositeur, il y a un moment donné, c'est pas du bout des doigts, du bout des lèvres, c'est dans le... Voilà, moi je suis rentré dans la passion du piano et de la pratique du répertoire classique, voilà, Rachmaninov, Chopin, bon, Liszt. Voilà, mais j'en ai une impression physique, en fait. Si je devais le résumer, c'est l'impression que j'ai, la sensation que j'ai en jouant ces œuvres-là et les émotions qu'elles dégagent. Et je pense que chaque art a son mode de d'immersion. Pour la musique, le temps est donné par la musique, donc on est contraint par le temps qui est donné de la musique nécessaire. Si c'est une œuvre d'art, bah, il faut apporter un temps d'observation et à chaque fois on recrée un peu l'œuvre. Finalement, on est obligé de recréer toujours l'œuvre pour qu'elle vive. Donc et je pense qu'une bonne écoute, c'est aussi une forme d'interprétation. Donc l'art, en tout cas, et la santé, pour moi, c'est une évidence.
Ce qui est très intéressant dans l'art et nous, dans nos propositions, c'est d'aller sur le côté sensoriel, en fait, justement, c'est ce que tu disais. Pour la musique, alors je pense à Hélène Grimaud, qui joue très très bien Rachmaninov, qui a écrit Variations sauvages, qui est magnifique, qui, je trouve, justement, parce qu'en fait, la musique, c'est quand même un apprentissage très mathématique, hein, c'est très sérieux, c'est rigoureux et tout ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est quand on arrive à un degré, justement, de conceptualisation qui fait qu'on revient à l'état sauvage, c'est ce qu'elle explique, en fait, et je trouve que c'est tellement ça, et au corps. Mais je pense aussi à l'atelier de peinture de Karine. Là, on a exposé des œuvres de Karine qui sont magnifiques, enfin, je me permets de lui dire, avec un encadrement maison et tout ça. C'est des très grands formats, donc 76 cm sur 110, 115 qu'on a exposé à l'Agora là, aujourd'hui. Et en fait, je crois, alors tu me reprends si je dis des bêtises, qu'elle vous a fait peindre l'artiste avec les yeux fermés ou la main gauche. Enfin, alors, je sais qu'il y a eu...
Ah, avec la main gauche. Il y a un autre, j'écoutais de la musique, je voulais m'isoler des autres. Donc j'ai peint qu'avec de la musique et c'est vrai que ça donne un mouvement. Enfin, c'est pas mal de mélanger deux arts, de la musique avec la peinture et essayer de peindre avec le mouvement. Et c'est vrai que ça donne carrément des choses assez incroyables quand même.
Parce qu'en fait, Myriam, elle s'amuse beaucoup à décentrer le mental justement et proposer aux patients de découvrir d'autres parts d'eux-mêmes en fait, ouais, par le corps.
C'est presque. Alors attention, je parle avec des soignants notamment ou au milieu hospitalier, mais c'est presque hypnotique. En fait, c'est de décentrer complètement et d'avoir plutôt le corps qui joue. Non.
Si on fait faire ce qu'on veut après à Karine.
Et oui, et Karine, justement, dans cet état, quand tu crées comme ça, en musique, raconte-nous un peu ce que tu ressens, est-ce que tu lâches.
T'es dans l'instant présent et t'oublies complètement tes soucis ou les gens qui sont à côté de toi. Bon, c'est pas très sympa du coup, mais je veux dire, moi je sais que bon, quand on est avec les autres, bon, ils racontent leurs petites histoires et tout ça, et du coup t'es pas complètement dans ton truc. Alors que là, t'es avec ta musique, ton pinceau et puis boum, tu pars et t'es complètement dans ton truc, quoi.
Donc là, c'est dans le faire. Oui. Et ensuite, le résultat, quand tu découvres, quand tu te rends compte de ce que tu as créé.
Oui, alors moi, je suis jamais contente de moi, donc ça, c'est, voilà. Mais par contre, voilà, quand j'ai des bons retours comme ça, c'est vachement encourageant, quoi. Et puis, ça ouvre vraiment de nouvelles portes, quoi. Parce que avant, quand je travaillais, j'avais pas le temps de vraiment me pencher sur une activité autre que mon boulot, ça me prenait beaucoup de temps. Et maintenant que malheureusement, je suis en invalidité, je m'ouvre à plein de nouvelles expériences, voilà. Et c'est incroyable, quoi. Et je me dis, merde, j'ai dû attendre 50 ans pour trouver tout ça. Et maintenant, je profite, quoi. Et je kiffe, comme diraient les jeunes. Maintenant, voilà.
Moi, je pense que la musique et l'art, ça me fait écho aux années, où il y a des rois et tout ça, où on mettait la musique là pour les festifs et tout ça, et c'est resté en fait. La musique, ça a traversé le temps, l'art aussi, ça traverse le temps. Picasso, les grands artistes comme ça, qui ont exposé leur œuvre et qui coûtent des millions, la Joconde, choses comme ça, enfin voilà. Je trouve que c'est une empreinte sur Terre, même si on n'est pas connu après notre mort, mais il y a quand même cette empreinte qui est là, avec la musique qui était créée lors de nos vivants, ça rassemble et tout ça. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Ça peut être écho à tout le monde, en fait. C'est pas que les patients, mais c'est aussi des gens normaux, en fait, qui font tout ça, en fait.
Et les patients sont-ils peut-être aussi des gens normaux ?
Oui.
C'est précisément peut-être ça. Mais on entend ce que tu dis. Ça relie par-delà, en fait. Ça va au-delà de soi, de notre commune humanité, à travers le temps et à travers les différents états de qui on est. On a grillé notre temps de radio. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, peut-être... Juliette, puisque tu es l'invitée d'honneur de cette onde curieuse écolariable.
Que dire pour conclure ? Non, mais je vois de continuer, de poursuivre. Je pense qu'il y a beaucoup de graines. C'est vrai qu'on parle beaucoup du jardin culturel qu'on a planté tous ensemble. Il y a beaucoup de graines qui ont poussé. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour que nos institutions puissent accueillir ces espaces-là. Ça me semble quand même très, très important. Donc, tu parlais d'hypnose tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est quand même des espaces qui sont très, très importants pour des prises de conscience, pour aller vers l'autre. Enfin, je pense qu'il y a vraiment importance et urgence, je pense, à militer pour que ça puisse se faire dans d'autres endroits. Il y avait une conférence à laquelle on avait assisté la dernière qui s'appelait « À quoi bon les poètes dans les lieux d'enfermement ?» Et c'était très étonnant parce que quand on m'a demandé d'intervenir, c'était pour Concertina, je me suis dit « Mais on n'est pas un lieu d'enfermement. » C'est quand même fou, hein. J'avais oublié que l'hôpital était un lieu d'enfermement. Et c'est en préparant la conférence, et on était notamment avec nos amis de la maison d'arrêt ou du ministère de la Justice, que je me suis quand même rendu compte de tous ces parallèles encore forts, prégnants, est présent entre ces deux milieux. Et encore ce matin, lors de l'inauguration, il y avait le directeur de la prison de la maison d'arrêt de Privas qui était avec nous, et on comparait le cadre bâti, l'architecture des deux bâtiments qui ont été construits en même temps, et puis ce rapport pénitentiaire qu'on peut encore malheureusement trouver nous dans certains services, cette histoire aussi autour du gardiennage de la personne malade, etc. On en semble loin, mais en fait pas tant que ça. Et je trouve que la culture permet quand même vraiment, vraiment, enfin la culture mais au sens large, hein, c'est pas que l'art, enfin tout fait culture aussi, mais
ce qui relie,
donc les rencontres au journal, enfin tout ce qui permet la radio avec toi, voilà, c'est vraiment, je pense, des moments qui sont extrêmement précieux et sur lesquels il faut encore peut-être davantage investir de temps et d'arguments pour que ça puisse se poursuivre.
Voilà. Merci, jolie petite graine semée au vent à travers les ondes de l'onde curieuse. Merci beaucoup. Merci beaucoup Juliette Pégon d'être venue ici. Merci à vous tous, Karine, Agnès, Solène et Jean. Merci à vous.
Merci.
Merci.
Et merci Sylvain pour la réalisation de cette émission. La suite du programme, et puis merci à vous, bien sûr, auditrices, auditeurs. Si vous voulez rester, voici ce qui vous attend. À 13h, c'est Sam Travail. À 15h, le Telex. À 17h, la rediffusion de cette onde curieuse. À 18h, Solidaire d'abord. À 19h, l'écho du parquet. Et à 21h, Hexagone Live. On se retrouve demain. Ciao.